le 16. Culture.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, on a au bout du fil le compositeur et musicien Denis Plante. Bonjour Denis, ça va bien?
Hey, ça va super bien, merci.
Donc, on vous reçoit aujourd'hui là, pour parler de votre sixième album, Suite Tango, qui sera disponible dès demain. C'est un projet là, qui a été créé en collaboration avec Stéphane Tétrault, également violoncelliste. J'aimerais ça vous entendre un peu sur comment est né cet album-là, ce projet-là de Suite Tango avec M. Tétrault.
Ben, Stéphane Tétrault est un virtuose du violoncelle. Et je l'ai rencontré lors d'un festival de musique classique qui s'appelle Classica, là, qui se donne à Saint-Lambert, en banlieue de Montréal. Et c'est le directeur artistique du festival qui avait eu l'idée de nous mettre ensemble pour un concert. Et on a tellement aimé jouer ensemble du tango que l'année suivante, je lui ai proposé de carrément composer là, un disque au complet, un répertoire en fait de concerts complètement dédié à un duo où on retrouve donc le violoncelle, bien sûr, mais aussi mon instrument à moi qui s'appelle le bandoneon, qui est un petit peu là, l'instrument essentiel du tango argentin. Pour ceux qui connaissent moins ça, ça ressemble un petit peu à un accordéon. C'est un instrument extrêmement expressif et quand on entend du tango, là, c'est vraiment ce son-là qu'on recherche.
Okay. Ah, mais pouvez-vous un peu nous décrire c'est quoi justement le bandoneon? Ça nous intéresse tous un peu en studio. C'est quoi les différences avec, puis, avec l'accordéon?
Puis ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré même vers cet instrument-là?
Oui, bien dans mon cas à moi, ce qui m'a attiré vers cet instrument-là, moi j'étais un guitariste de formation.
OK.
Et j'ai découvert cet instrument-là tout simplement parce que j'ai appris à danser le tango.
OK.
Et donc là, j'ai découvert la musique. Là, je me suis intéressé un petit peu à former un orchestre de tango. Et c'est là que j'ai appris que pour former un orchestre de tango, ben, il fallait absolument un bandoneon. Il n'y en avait pas au Canada à ce moment-là là, de disponible. Il n'y avait aucun joueur disponible, en tout cas. Et il y avait des instruments, mais qui étaient en mauvais état. Donc, ça a été comme un petit peu une quête là, de trouver un instrument, d'apprendre à en jouer. Et puis, éventuellement, donc, j'ai commencé à développer ma propre musique en utilisant cet instrument-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. La grosse différence, dans le fond, entre un accordéon et un bandoneon, c'est que sur l'accordéon, il y a des boutons qui sont comme des boutons magiques, on va dire. Ça joue des accords. Donc, tu joues un seul bouton et ça joue un accord au complet. Donc, ça permet de s'accompagner facilement. Le bandoneon, lui, l'inventeur, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment un orgue portatif. Donc, il voulait vraiment qu'on puisse jouer, par exemple, de la musique religieuse. Donc, il fallait que ça soit complètement chromatique sur 5 octaves. Il fallait que les deux mains soient complètement indépendantes. Et donc, ça donnait une espèce de petite machine octogonale assez compliquée à jouer, assez compliquée à apprendre. Donc, ça fait que ça n'a pas du tout eu le même succès que l'accordéon là, au 19e siècle. Cependant, le soufflet est super long, ça fait comme un grand serpent un peu. Et puis, ça permet de faire des très, très longues phrases et d'être très, très expressif. Et ça, les musiciens argentins, quand ils ont découvert cet instrument-là, ils sont comme tombés en amour. Et puis, ils ont décidé vraiment de l'adopter.
Si on revient un peu à Suite Tango, dans le fond, je serais curieux de vous entendre un peu sur comment est-ce que vous avez conjugué la violoncelle avec le bandoneon pour cet album-là, puis qu'est-ce que vous avez voulu rendre comme univers musical avec cet album-là?
Oui, bien, il y a un précédent dans le cas des suites de danse, en particulier pour le violoncelle. Donc, il y a une grande œuvre de Jean-Sébastien Bach qui s'appelle Suite de danse pour violoncelle seul. Et donc, c'est une suite de 18 pièces contrastantes. Et donc, c'est un petit peu ça, mon inspiration. Donc, je sais que Stéphane Tétrault, lui, jouait souvent cette œuvre-là, les suites pour violoncelle de Bach. Et puis là, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose, mais plutôt que de faire des gavottes, des menuets et puis des danses un peu archaïques, pourquoi on ne s'inspirait pas vraiment des rythmes de l'Amérique du Sud pour faire comme ça une grande suite de pièces qui reste des pièces de danse, là, donc chaque pièce est quand même assez rythmée, la compilation de toutes ces petites danses-là, finalement, fait une grande œuvre qu'on a enregistrée sur ce disque.
Vous êtes le fondateur de Tango Boréal. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder notamment Tango Boréal?
Ben, moi, essentiellement, je m'intéressais évidemment au tango, mais du point de vue d'un œil nordique. Moi, je suis un Québécois, je suis né à Montréal. Puis j'ai découvert le tango, là, comme on le dit plutôt en dansant. Donc, c'est pas quelque chose là, qui venait de ma famille ou qui vient de mes ancêtres. Et donc, une des choses que je voulais faire, c'était quand même de créer de la nouvelle musique en quelque sorte. De continuer aussi à faire vivre cet instrument-là parce que peu à peu, les bandoneons, en fait, sont toutes des antiquités et peu à peu, ils sont de plus en plus en mauvais état et il y a de moins en moins de gens qui en jouent. Donc, je trouvais ça important quand même de donner comme une nouvelle chance, un nouveau souffle en composant des nouvelles œuvres en espérant qu'un jour, les gens puissent continuer à jouer de ces œuvres-là contemporaines pour le bandoneon.
À quoi? Parce que c'est quand même pas commun ici à l'émission qu'on reçoive des gens qui font de la musique du monde ou en tout cas des musiques, des styles un peu plus particuliers comme ici le style tango. Je serais curieux de vous entendre un peu sur peut-être cette place-là qu'elle occupe la musique du monde dans, je sais pas, dans le monde de la musique québécoise. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quand même un bon réseau de festivals? Est-ce qu'il y a quelques artistes justement là, qui commencent à percer ou même depuis que vous en faites, est-ce que vous voyez une évolution peut-être dans l'intérêt envers soit le tango ou même la musique du monde en général?
Oui, ben, c'est vraiment une super bonne question. J'avoue que moi j'ai été comme un petit peu propulsé dans cet univers-là dès la fin des années 80. C'est un peu là que même le mot là, musique du monde a été en quelque sorte inventé. Pas par les musiciens, pas par les critiques, c'est vraiment les maisons de disques là, qui cherchaient comme à expliquer qu'est-ce que ces gens-là faisaient, que c'était pas de la pop, c'était pas de la musique notamment classique. Souvent, c'est pas non plus du folklore. Hein. Le tango n'est pas une musique folklorique, c'est une musique populaire d'une autre époque, mais c'est pas vraiment une musique folklorique en tant que telle. Et donc, les compagnies de disques comme ça ont inventé cette appellation-là, musique du monde. Qui recoupe donc de tout. C'est quand même un petit peu, je trouve, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que pour beaucoup de compositeurs, ça reste comme un endroit finalement où on a beaucoup de liberté, hein, parce qu'on n'est comme pas pris dans des carcans justement de la musique traditionnelle ou encore de l'écriture de la musique classique. Et donc toute cette liberté-là a vraiment donné beaucoup d'énergie, on pourrait dire, à toutes sortes de compositeurs. Dans le cas du Québec, le tango a une histoire ancienne. Ça a été souvent fondé par des Sud-Américains au départ, dans les années 70, les groupes qui existent. Mais après ça, à partir des années 80, il y a un célèbre joueur de bandoneon là, qui est venu au festival de jazz qui s'appelait Astor Piazzolla. Et c'est vraiment l'arrivée de ce personnage-là dans notre univers à nous qui a comme inspiré là, toute une génération de compositeurs, souvent venant du jazz. Là, c'est un petit peu mon cas à moi. À cette époque-là, j'étudiais le jazz à l'université. Mm-hmm. Et puis là, quand j'ai découvert qu'on pouvait comme faire du jazz, mais avec des sonorités sud-américaines et qu'on était absolument libre de faire ce qu'on voulait, j'ai complètement été séduit par ça. Et puis j'ai décidé de consacrer mon Dieu de nombreuses années maintenant.
Ouais, ça vous a même fait gagner des prix à la disque aussi. En terminant, peut-être on va aller écouter une des pièces de l'album. En fait, c'est la pièce qui ouvre cette suite-là, donc suite numéro 1, Argentina. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette pièce-là en terminant?
Donc, cette pièce-là qui ouvre le disque est vraiment inspirée un petit peu de l'univers des suites de danse de Jean-Sébastien Bach, dans le sens qu'on est dans quelque chose d'un peu pompeux, on pourrait dire. Mais rapidement, on va tomber dans quelque chose qui ressemble plus à de la musique folklorique. Cette pièce-là, qui est le premier extrait, est en fait l'introduction là, à la pièce suivante qu'on ne pourra pas écouter aujourd'hui, mais je vous invite tous mes auditeurs, évidemment, de continuer pour voir la suite.
Oui, on va pouvoir l'écouter dès demain parce que Suite Tango, ça sort le 9 décembre sur toutes les plateformes. Denis Plante, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie, c'était très intéressant.